Oh oui, Seigneur. Oui, Seigneur. On regarde à toi ce matin. Oh, on ne marche pas par la vue, Seigneur. On marche par la vue spirituelle, Seigneur. On est conscient, Seigneur, de tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait, Seigneur. On est conscient, Père éternel, de où on était et où on est rendu aujourd'hui. On est conscient, Seigneur, des choses que tu arrêtes dans nos vies, des choses que tu nous aides à surmonter, Seigneur. On est conscient, Seigneur, des merveilles que tu fais continuellement, de tous les signes, les prodiges, les choses que tu nous montres. On est conscient, Seigneur, de cette paix, Seigneur. On te glorifie, Seigneur. Toute la gloire te revient, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous rendre capables, Seigneur, d'avoir peur à cet héritage, Seigneur, qu'on a en Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Eh bien, la semaine passée, on a vu qu'on ne peut pas se priver d'un miracle dans nos vies en laissant le doute venir. Amen. Et puis, parce que lorsque nous doutons, vraiment aussitôt qu'on laisse le doute jaillir, eh bien, on laisse passer le miracle. Puis on peut pas laisser passer les miracles. Combien de vous savez qu'on a besoin des miracles de Dieu? Amen. On a besoin de tout ce que Dieu a pour nous. Amen. Puis je veux renforcer, parce que la semaine passée, on a parti un petit peu dans une direction, mais je veux renforcer ce point-là. Amen. On va aller à Marc 11. Marc 11. Et puis, je vais lire à partir du verset 20. Les disciples, des fois, ils étaient souvent dans l'étonnement de tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ pouvait faire. Amen. Il a été vraiment un professeur assez direct. Amen. Il parlait aux arbres, puis il commandait de mourir, puis de sécher jusqu'à la racine. Puis eux autres, ils voyaient toutes ces choses-là. Puis je suis certaine qu'il était sur un choc pendant 3 ans et demi, amen. Lazare, il meurt, et puis il regarde, puis il dit, allez rouler la pierre. OK! Ça fait à peu près 3-4 jours qu'il est là, et puis même les autres, ils ont dit, oui, mais il sent déjà, tu sais. Il dit, allez rouler la pierre. Mais on va dire de quoi, même si ça sent mauvais des fois, dans nos vies, on va dire de quoi, il peut emmener le miracle pareil, amen. Gloire à Dieu. Alors, au verset 20 ici, la parole de Dieu dit, « Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Amen. Puis vraiment, on sait très bien que notre Seigneur Jésus-Christ a continuellement travaillé ça dans la vie des disciples. Amen. Il les entraînait, là, parce qu'il savait qu'un jour, il allait tout accomplir à la croix, puis c'est eux autres qui continueraient, puis qui formeraient l'Église. Amen. Alors, il dit, « Ayez foi en Dieu. » Il dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, puis vous le verrez s'accomplir. » Amen. Mais vraiment, on voit très bien ici au verset 23 qui dit, « S'il dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur. » Voyez-vous, notre tête, elle a pu se promener sur un bord puis sur l'autre. Amen. Et puis, vraiment, on va voir qu'avec la parole de Dieu, on peut raccorder les petits fils qui s'en vont de travers des fois. Mais le doute, quand il est dans le cœur d'une personne, il y a des gens, des fois, on leur parle, puis non, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Ce n'est pas juste dans leur tête, c'est dans leur cœur, puis ils doutent vraiment que Dieu peut faire quelque chose. Amen. Mais la parole de Dieu dit, s'il ne doute point en son cœur, bien, il le verra s'accomplir. Autrement dit, le doute, c'est tellement important de ne pas avoir ça. Amen. De l'éliminer si on ne veut pas laisser passer notre miracle qui est devant nous. Parce que j'ai des petites nouvelles pour vous. À chaque jour que le soleil se lève, amen, puis que nous autres aussi, on continue de respirer, amen, déjà on commence à vivre les miracles de Dieu.
Amen.
Amen. C'est un miracle qui a mis les luminaires, les étoiles, c'est un miracle. C'est le miracle. Quand vous tondez votre pelouse, vous vivez le miracle parce que Dieu dit qu'il y a de l'herbe sur la terre. Vous êtes dans les miracles continuellement. On vit les miracles de Dieu continuellement. Fait qu'on peut s'attendre à chaque jour de voir les miracles de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut arriver à faire, c'est éliminer le doute. Parce que la parole de Dieu est bien précise là-dessus. On va aller à Matthieu 14. Matthieu 14. Je vous dis, il y a un pasteur qui me disait, il dit, c'est rare que j'enseigne sur la guérison. Je dis, ah oui? Il dit, oui, parce que dit, quand les gens ne sont pas guéris, après ça, ils viennent nous voir et on a plus de questions que d'autres choses. Oh my, my. My, 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 my. My, 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 my. J'ai dit, avant de dire, tu me les enverras, moi, ils répondent. Pas parce que je me pense plus fine qu'un autre, mais c'est parce que quand on sait ce que la parole de Dieu dit, amen. Oh my. OK. On va lire l'histoire ici de Matthieu, dans Matthieu de Pierre. On va commencer au verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était contraire, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, « Merci Seigneur que quand la peur vient, tu ne cales pas jusqu'au fond tout de suite de même. » là. Amen. Surtout si tu marches sur l'eau, tu es en train de marcher. Là. Il faisait juste commencer à enfoncer un petit peu. C'était un petit peu plus difficile à marcher. Amen. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Il a demandé la question, il dit, « Pourquoi te laisser le doute rentrer dans ton cœur? » Tu t'es mis à regarder chaque bord parce que le vent était contraire puis il y avait des grosses vagues. Écoute, ce n'est pas les vagues qui vont le faire enfoncer, il marche déjà sur l'eau, là. Amen. Il dit, pourquoi as-tu douté? Ce que Dieu veut dire ici, c'est vraiment ce que notre Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, c'est ton miracle, là, tu le vivais, mais parce que tu as laissé le doute rentrer, ton miracle, tu n'étais plus en train de le vivre, tu es en train de le perdre. Donc, il y a plusieurs personnes, des fois, qui commencent zélées avec la foi, mais qu'à un moment donné, les circonstances s'élèvent, les événements, les paroles des gens, toutes sortes de choses autour d'eux, puis là, ils commencent à douter. Il faut vraiment enrayer le doute. Amen. Parce que sans ça, le miracle, lui, tu vas commencer à enfoncer, puis toi, tu veux le vivre, le miracle. Parce que Dieu, il fait des miracles continuellement, à tous les jours. Tous les jours, on peut vivre les miracles de Dieu. À tous les jours, si je m'en vais puis j'ai besoin de quelque chose, je peux le demander à Dieu puis il va le faire. À tous les jours, Dieu il est présent puis il est prêt à faire les miracles. Mais je veux les vivre. Amen. Je veux les vivre complètement, puis je ne veux pas commencer à m'enfoncer, puis laisser passer le miracle. Si vous saviez comment que Dieu il répond, puis le miracle s'en vient, puis il passe tout droit parce que la personne s'est mise à douter, parce qu'il y avait trop de circonstances qui se sont élevées. C'est vraiment important de prendre soin du doute. Amen. On va aller à Jacques 1. Autrement dit, ce que Jésus disait à Pierre, c'est pourquoi te laisser les circonstances autour te faire douter comme ça? Cette valeur, parce que tu t'en venais bien. Tu étais presque rendu vers moi. Mais là, il a étendu la main. Tu étais presque rendu puisque Jésus, il a juste étendu la main. Amen. Il était presque rendu. Oh, merci Seigneur. Mais Jésus est obligé de le traîner dans l'eau. Non, non, c'est des farces. Il a étendu la main, il l'a soulevé, puis on marchait tous les deux jusqu'en dedans. Amen. Ici, dans Jacques 1, verset 5, ça dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Ça, c'est intéressant aussi, parce que dans n'importe quoi, « Seigneur, c'est quoi vraiment faut que je fasse, parce que je manque de sagesse. » La sagesse de Dieu, c'est que Dieu connaît tout concernant le futur, concernant plein de choses. Si on en manque, c'est bien facile. Ils avaient juste à en demander. Dieu est sagesse. Amen. Il va nous révéler des choses. Et elle lui sera donnée. Si la parole de Dieu dit que si on en manque, on n'a rien qu'à lui demander, puis elle va nous être donnée, c'est merveilleux. Il n'y a pas rien de négatif là-dedans. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Autrement dit, quand tu laisses le doute t'envahir continuellement, tu deviens inconstant. Tu n'es plus inconstant, c'est le contraire d'être constant. Combien de vous savez ça? Quelqu'un qui est constant, c'est quelqu'un qui dit, je le sais que ça va aller, puis je continue, puis Dieu est à l'œuvre, puis Dieu va le faire, puis je le sais que ça va aller, puis je le sais que ça va aller. Comme une tortue. Vous savez l'histoire du lapin puis de la tortue. Le lapin, lui, il se pensait bon comme tout, il courait vite, puis il avait le temps d'aller se mettre sous un arbre, puis il avait le temps de relaxer, puis il riait de la tortue. Mais la tortue, elle a traîné toute sa carapace avec elle, puis après un pas, c'est un autre. Puis c'est un autre, puis il s'en va comme ça, puis il avance en avant, puis il s'en allait comme ça. Amen. Après un pas, c'est un autre. Et puis qui est arrivé le premier? La tortue. Amen. Être constant, c'est beaucoup mieux. Même si tu avances à pas de tortue, même si ça grouille pas fort, ça grouille pas vite, même si, même ça, c'est pas grave. Être constant, hello, être constant, ça va bien, amen, ça nous fait avancer jusqu'à la ligne en avant, gloire à Dieu. C'est mieux d'être constant, mais la parole de Dieu dit que quand on doute, on devient inconstant. Ça veut dire que la tortue, elle qui avançait tranquillement, si elle aurait arrêté d'être inconstante, puis elle aurait rentré les pattes à l'intérieur de sa carapace, puis elle se serait reposée, pareil comme le lapin, elle n'aurait peut-être pas arrivé en la première à l'autre bout. Amen. Mais elle était constante. Mais la parole de Dieu dit que quand le doute, on le laisse nous envahir, puis là, on se met à parler négatif, parce que, vous savez, la foi, c'est dans ton cœur. Et puis, il faut que tu renouvelles ton intelligence, mais ça passe par ici. Tout sort ici. C'est pour ça que le pouvoir de la langue est très fort. Tu peux donner la vie ou la mort. Ça dépend de ce que tu laisses sortir ici. Mais si tu passes ton temps à dire, « Ah, je le savais, ça va bien commencer, mais je le savais, c'est comme d'habitude, il fallait bien qu'il nous arrive une autre affaire, puis regarde, on est encore poigné bien raide. » Ça, c'est bon québécois, hein? Amen. Et puis, ben, tu viens de sortir le doute que tu avais dans ton cœur. Amen. J'aime beaucoup une parole que Joanna m'avait donnée qui est dans mon bureau. Quatre fois, je rouvre le tiroir, je la vois. Ça dit, tant que les paroles sont dans ta bouche, tu en es maître. Mais lorsque les paroles sont sorties, tu en deviens esclave. Si c'est des bonnes paroles, merci Seigneur, tu es esclave de des bonnes choses. Amen. L'apôtre Paul dit, je suis un esclave pour Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu. Mais si c'est des mauvaises paroles, tu en deviens esclave aussi. Amen. Mais voyez-vous, la parole de Dieu, il dit ici, si tu manques de sagesse, ou tu manques, ça va aussi pour n'importe quoi, demande-la à Dieu, il donne. Dieu donne. On parlait de ça hier soir, c'est la plus grande chose que Dieu fait, c'est donner. Il a donné son Fils, il nous donne le Saint-Esprit, il a donné les anges à l'œuvre, il nous donne sa parole, il est fidèle, il donne. Amen. Fait que vous n'avez pas besoin de peur, d'avoir peur de lui demander quoi que ce soit. Il va le donner. Amen. Mais il dit que doute pas, par exemple. Parce que sans ça, tu vas être semblable au flot de la mer. Ça ne fonctionnera pas. Amen. Donc, c'est quoi le remède contre le doute? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. On va aller à 2 Corinthiens 10. Il y a juste un remède, c'est la parole de Dieu. 2 Corinthiens 10. Et puis, je vais lire le verset, à partir du verset 3. Ça dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Ça veut dire que même si tu marches en chair et en os sur la terre, on sait très bien qu'on est des humains et qu'on fait face à tout ce qui peut être charnel autour de nous. Il y a une chose qu'on sait, c'est qu'on ne se, on combat pas contre la chair, selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est quoi les forteresses? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Puis on amène toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ ou à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Mais ce que je veux qu'on voit ici, c'est qu'il y a une façon de se battre contre le négatif, contre les raisonnements. Dans une traduction, le mot « raisonnement », nous renversons tous les raisonnements, c'est tous les arguments, toutes les théories, tous les raisonnements, toutes les opinions, toute la science, toute la connaissance, toutes les actions. Quand on dit qu'on renverse les raisonnements, c'est qu'on renverse n'importe quoi. Quand même que la science, elle dirait, oui, mais toi, c'est héréditaire, toute ta famille, elle a été comme ça, puis on le voit dans les livres que c'est ton père, puis ta mère, puis ta soeur, puis ton frère, ils sont comme ça, c'est héréditaire. Bien, moi, je renverse les raisonnements, je renverse la science, je renverse les théories, je renverse toute hauteur qui s'élève contre qu'est-ce que Dieu dit. Alors, si je veux enrayer le doute dans ma vie, je vais prendre la parole de Dieu, puis je vais renverser ces hauteurs-là qui s'élèvent contre la parole de Dieu. Amen. Je vais renverser les raisonnements. C'est comme si je dis au monde, c'est bien beau tes raisonnements, je sais que c'est que 10 moins 10 $ moins 5 $ égale 5 $ mais si Dieu me dit de donner 5 $ de mon 10 $ moi, je crois que ce n'est pas juste 5 $ qui va me rester, mais que j'ai une semence de 5 $ qui peut produire 20 fois. Point final. Je renverse les raisonnements. Je sais que moins 10 moins 5 égale 5, mais je renverse ça par la parole de Dieu. Oui, il me restera 5, mais peut-être pas longtemps, parce que Dieu peut changer les choses parce que j'ai fait une action qui est en accord avec une loi biblique qui dit « Donnez, puis vous sera donné, semez, vous allez récolter, puis Dieu fait croître. » Comprenez-vous? Je renverse les raisonnements. De toute façon, Dieu a déclaré de folie la sagesse du monde. Et c'est une folie. Il n'y a rien qu'une sagesse qui existe, c'est celle de Dieu. Amen. Il donne un peu de sagesse aux gens. Mais je veux dire, la grande sagesse, ça vient de Dieu. L'homme ne fait que découvrir la sagesse de Dieu. Quand les fusées vont dans les airs puis ils viennent à bout d'atterrir sur la planète Mars, ils essayent de découvrir qu'est-ce qu'il y a là. Mais tout vient de la sagesse de Dieu. C'est lui qui a créé toute chose. Amen. Mais vraiment, la parole de Dieu dit, « Mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnel. Premièrement, notre première position dans ces versets-là à faire, c'est, premièrement, on doit renverser les forteresses. Dieu dit, laisse pas les forteresses se bâtir dans ta tête. On voit des fois, on parle à des gens, puis on dirait qu'on frappe un mur. C'est ça. C'est parce que c'est plein de forteresses qui ont bâti selon ce qu'un a dit. Oui, mais tu sauras que la science, elle a dit ci, puis elle a dit ça. Puis tu sauras que le médecin, il sait ce qu'il fait quand même. Il a fait 4 ans d'université pour étudier des choses qui ont été expérimentées dans des laboratoires, sur des cobayes, puis sur des humains. À qui sait ce qu'il fait? Oui, selon sa connaissance, il sait ce qu'il fait. C'est sûr et certain que le médecin, selon sa connaissance, il sait ce qu'il fait. Puis il est plus intelligent que bien du monde parce qu'il t'aide à t'en sortir. Je suis 100% d'accord, puis j'en ai besoin moi-même. Amen. Mais il y a une chose. On ne peut pas juste laisser ce raisonnement-là passer par-dessus la parole de Dieu. Si je veux me battre contre ce qui vient contre moi, je ne prendrai pas juste des armes charnelles parce que je vais perdre. Ce n'est pas suffisant, c'est limité. Donc, je dois prendre des armes spirituelles, des armes qui pour renverser ces raisonnements-là. Amen. Puis dire, oui, je le sais que le médecin, mais j'ai une autorité supérieure, puis je dois rendre captif tous ces raisonnements-là à l'obéissance de la parole de Dieu, à l'obéissance de Christ. Je ne peux pas me permettre de me mettre à douter. Non. Ça, c'est un raisonnement, ça, c'est un fait, ça, c'est une action, c'est une circonstance, c'est ça. Mais je veux l'emmener captive à l'obéissance de Christ. Je ne veux pas m'emmener, moi, à être captive du raisonnement. Je veux emmener le raisonnement, la circonstance, les choses à être captifs. Vous allez être captivés par la parole de Dieu. Amen. Fait que le monde, il dit, c'est héréditaire. Il y a juste une chose. En 1982, je suis née de nouveau. Puis le sang de Jésus, c'était AB positif, apparemment, dans un livre. Le même que moi. Merci, Seigneur. Mais je suis née de nouveau. Donc, je ne fais plus partie de l'hérédité de ma famille. J'ai été délivrée de la puissance des ténèbres. Voyez-vous, j'emmène cette pensée-là captive à l'obéissance de Christ. La parole de Dieu dit dans 1 1, 12, 13, là, dans ce coin-là, ça dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, puis il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption. Savez-vous c'est quoi la rédemption? C'est le salut, c'est la guérison, c'est la paix, c'est la provision, c'est la délivrance. Dans la rédemption, tout ça a été inclus. Il m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Alors, je ne suis plus dans l'hérédité de ma famille. Amen. Je viens de perdre cet héritage-là. Merci, Seigneur. Maintenant, j'ai un nouvel héritage. J'ai une nouvelle hérédité. Celle de Christ, qui a souffert les meurtrissures duquel j'ai été guérie, qui m'a lavé de tous mes péchés, qui a pris ma place, puis a tout accompli. Alors, c'est complètement différent. Fait que je renverse cette hauteur-là de la science, puis je l'amène captive à l'obéissance de Christ. Puis je dis, Satan, tu ne viendras pas me mettre des doutes. Savez-vous, je l'ai déjà dit ici, qu'il y a un homme que toute sa famille, ils n'ont jamais passé 50 ans. Son père, son mononcle, son grand-père, ils sont tous morts du cœur, jeune. Puis lui, il disait toujours, je le sais que, mais j'ai 50 ans, ça va sûrement être comme eux autres, c'est ça qui va m'arriver. Et puis quand il était dans la cinquantaine, à un moment donné, il avait des troubles d'estomac, puis il était sûr qu'il avait des douleurs, puis des douleurs, puis des douleurs, puis il s'est rendu à l'hôpital, et puis ils ont passé des tests, puis finalement, dans la nuit, il est mort. Puis les médecins, le lendemain matin, ils se grattaient la tête, puis ils disaient, on ne comprend pas qu'il soit mort, parce que ce gars-là, il était après faire une crise d'estomac. C'était un mal d'estomac, une crise de foie qu'il faisait, et non pas de cœur. Mais lui était convaincu. Amen. Il aurait dû emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mon père est mort jeune, mon grand-père est mort jeune, puis deux de mes oncles sont morts jeunes. Mais Jésus est venu pour que j'aie la vie, puis la vie en abondance. Alors, je ne vais pas douter, je vais emmener mes doutes, mes raisonnements, mes circonstances, les faits, quoi que ce soit, à l'obéissance de Christ. Christ, c'est la parole de Dieu. Alors non, vous allez obéir à ça. Je ne vais pas mourir à 50 ans. Dieu va prolonger mes jours. La bonté, la fidélité ne m'abandonnent pas. J'obtiens grâce, faveur auprès de Dieu et des hommes. La parole de Dieu est dans mon cœur. Cela prolongera mes jours, à Proverbe 3, mes jours et mes années sur la terre. Jésus est venu pour que j'aie la vie en abondance. Par la parole de Dieu, par ces armes-là, j'emmène les pensées captives à l'obéissance de Christ. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est que tu es secouru dans tes besoins. Amen. Parce que la parole de Dieu fonctionne. Amen. Oh, gloire à Dieu. Les armes. Pourquoi qu'ils disent les armes? Si c'est la parole, ça devrait être écrit l'arme de la parole de Dieu. C'est parce que dans la parole de Dieu, il y a plein d'armes. Voyez-vous, l'apôtre Paul, il était en prison, accusé faussement. Après avoir été fouetté, il y a des plaies sur le dos. Ça fait mal. Ce n'est pas la première fois qu'il est pris d'aplomb par des gens et qu'il ne se fait pas lapider ou chasser ou toutes sortes de choses. C'est fatigant, c'est épuisant. Combien de vous savez que c'est épuisant quand tu appliques la parole de Dieu et on dirait que tu as quelque chose qui s'élève? C'est exactement ça qui y arrivait. Il appliquait ce que Dieu lui demandait de faire, le plan de Dieu dans sa vie, d'aller puis d'ouvrir la porte de la foi aux nations puis de prêcher la parole de Dieu. C'est fatigant d'avoir toujours quelqu'un après toi qui est après des fers. Là, il est en prison puis il a été fouetté. Il a pris une arme de la parole de Dieu, qui est la prière et la louange. Puis en prison, il s'est servi de la parole qui est la grosse arme. On pourrait dire que c'est la parole de Dieu, c'est l'armoirie. C'est là où ce que toutes tes armes sont. Et dans la parole, il y a toutes sortes d'armes que tu peux prendre. Puis il s'est mis à prier Dieu et à louer assez fort que tous les prisonniers l'entendaient. Puis comme j'ai prêché, je ne sais pas quand, mais c'est officiel qu'en prêchant souvent, on dit bien des affaires. Amen. Quand il y a eu le tremblement de terre et que toutes les portes des prisons se sont ouvertes, tous les prisonniers se sont emmenés dans la cellule de Paul. Moi, j'aurais sacré mon cœur. Tu ne rentres pas d'une cellule pour rentrer dans une autre cellule. Mais pourquoi ils se sont tous envenus dans la cellule de Paul? C'est parce qu'ils l'ont entendu louer à haute voix Dieu. C'était pas juste « Je te loue, Seigneur, je t'adore, alléluia ». Non, c'était « Oh Dieu, que je sais qui m'est apparu, qui est vivant, alléluia ». Ils prêchaient puisqu'ils ont tous voulu avoir le salut puis rentrer dans sa cellule. Amen. Puis quand le geôlier s'est aperçu que les portes étaient ouvertes puis il voulait aller se tuer, Paul il dit « Mais non, fais pas ça, on est tous ici ». Le geôlier avait entendu, mais voyez-vous, il a amené toutes les pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Puis il y a eu le miracle. Voyez-vous, un autre arme, c'est la persévérance. La parole de Dieu nous dit que par la foi et la persévérance, on hérite des promesses. Puis la femme cananéenne, elle suivait Jésus. Elle n'avait même pas le droit d'amener une guérison à sa fille parce qu'elle n'était pas juive. Puis Jésus était venu en premier pour les brebis perdues d'Israël et non pas pour des Cananéens qui font des idolâtries à des idiots de Baal, puis d'Astarté, puis tous ces gens-là, puis qui font des offrandes terribles, puis des danses. Il y avait même du sexe qui se faisait devant ces idoles-là, puis ils pensaient qu'ils adoraient l'idole. Je vous dis, ils étaient pervers au bout. Puis elle suit en arrière. Puis il n'est pas venu pour elle, il est venu en premier pour les brebis perdues d'Israël. Mais elle est persévérante. Puis la Bible a dit par la foi, la persévérance hérite des promesses. Fait qu'elle a eu sa promesse avant son temps. Jésus n'est même pas encore mort sur la croix pour elle. Elle a devancé le temps. Elle a devancé le temps. Moi, j'aime ça du monde comme ça, qui change les choses par leur persévérance puis leur foi. À mes pattes. Elle a devancé son temps. Elle n'arrêta pas, puis elle criait en arrière. Puis les apôtres ils ont dit, renvoie-la, elle crie en arrière de nous autres. Aie pitié de ma fille. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Elle a pris une arme de la parole de Dieu qui s'appelle la foi puis la persévérance. Elle a décidé qu'elle lâche pas. Jésus dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Premièrement, comme j'ai déjà prêché ici, il appelle la guérison le pain, pas du dessert, du pain. Du pain, on en a sur la table continuellement. Quand tu n'as pas rien à manger, tu manges des toasts. Amen. Puis je ne suis pas gênée d'arriver à quelque part et dire, s'il me présente un spaghetti, as-tu du pain avec ça? Amen. Du pain, si on le mange ça n'importe quand. Puis Jésus, il compare la guérison à du pain, pas du dessert. Du dessert, je serais gênée d'aller manger chez vous et dire, y a-tu du dessert? Ça, je serais gênée. Mais pas du pain. Amen. J'aime ça, le pain. Le pain de la parole, puis le pain. Amen. Il dit, c'est pas bon de prendre le pain des enfants puis de le jeter aux chiens comme toi. Je vais vous dire de quoi, il y a du monde des fois qui sont dans la ligne de prière, puis juste parce que tu n'as pas prié tout à fait ce qu'eux autres s'attendaient, ils sont quasiment frustrés, puis ils s'en retournent. Puis elle, elle se fait traiter de chien, puis elle n'est pas frustrée. Elle dit oui. Oui, oui, je le sais que je suis un chien. Comparé à la race juive, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Mais elle dit, il y a une chose. Je n'ai pas envie de lâcher un matin. Elle dit, les miettes qui tombent de la table, les chiens comme moi, on les mange. Et il dit, ma fille, wow! Wow! Enfin, quelqu'un qui fait mordicus. Tu ne lâches pas. C'est une arme. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser des forteresses, pour renverser des circonstances, pour renverser des théories, pour renverser des opinions, pour renverser la science, pour renverser la connaissance, pour renverser les actions qui se passent autour de nous autres. La parole de Dieu, elle est puissante quand elle est appliquée. Elle va renverser. Quelqu'un peut dire, non, ça ne sera pas comme ça, puis tu continues à prier, puis ça change. Il y a juste une manière d'amener une cure au doute, c'est la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu a le plein d'armes par lesquelles nous combattons, qui ne sont pas charnelles, mais qui sont spirituelles, puis sont puissantes, amen, pour renverser. Et quand je pense à Dorcas, Dorcas dans Actes 9, 36, qui est morte. Elle est morte. Mais elle a appliqué un principe avant de mourir. Qui est qu'elle faisait des œuvres et des œuvres et des œuvres continuellement, puis elle donnait, puis elle donnait, puis le monde disait, as-tu vu tout ce qu'elle faisait, puis as-tu vu comment qu'elle donnait, puis as-tu vu tous les beaux costumes qu'elle faisait, puis le linge qu'elle faisait, puis tout ce qu'elle faisait. C'est une arme. On a parlé hier de donner, c'est une arme. Moi, je sais, je disais que ma vie, j'aime à donner. J'aime ça. Moi, puis Réal, on est assez énervés. Je fais juste lui demander, puis... Oui, ma sauce, ma vie, ça. Oui. Pasteur Réal est aussi pire que moi. Quand on était au Nouveau-Brunswick, là, on faisait affaire beaucoup avec un pasteur qu'on savait qu'il avait besoin d'aide. Puis des fois, mon mari m'appelait à l'ouvrage, puis il disait, là, tu vas prendre 500 sur la visa, là, puis tu vas aller déposer ça dans son compte. On avait son numéro de compte. Dépose ça direct, il dit, depuis un matin que je travaille, puis ça me fatigue. On est tous pires un que l'autre, mais, pour le bon côté, merci Seigneur, mais on n'a pas appris ça des voisins. Nos parents y étaient comme ça. Ma mère, là, 60 ans passés, elle est morte l'année passée, elle avait 80, presque 98, il manquait une semaine. Puis je suis certaine que Dieu y a prolongé ses jours à cause de tous les dons qu'elle a faits dans sa vie. Parce que des fois, on disait, elle n'a même pas 9 vies comme un chat, elle a 960 vies comme un chat. Le médecin disait qu'il reste 5 jours à vivre. Elle avait 82. John Smith qui priait sur elle, elle s'en venait. 2 ans plus tard, elle avait encore une autre affaire, puis le médecin disait, rebondissait comme un spring. On dit, faites-vous-en pas, elle va vivre jusqu'à 100 ans. Ma mère, elle disait, dites pas ça les petites filles, dites pas ça les petites filles. 98. Mais ma mère, quand on était jeune, elle donnait continuellement. C'est rien que ça qu'on a vu. Elle entendait dans ce temps-là les maisons, ça n'avait pas autant de protection qu'avant. Puis là, elle entendait qu'il y avait une maison qui avait passé au feu, puis il y avait un couple là-dedans qui avait trois jeunes enfants. Puis dans ce temps-là, le matériel, je ne sais pas si c'est comme aujourd'hui, mais ma mère, elle s'en allait chez nous, elle prenait l'âge des enfants, puis là, elle prenait des vieux manteaux, elle les défaisait, elle virait ça de bord, elle lui refaisait un petit manteau, puis elle faisait des pantalons, puis elle faisait des affaires, puis elle cousait très bien ma mère. Et puis, elle apportait ça, puis elle disait « j'ai ça », puis elle lui achetait un peu d'épicerie, puis toutes sortes d'affaires. C'était toujours comme ça. Moi, mon père, on appelle ça une main de Pentecôte, une main de Pentecôtiste. C'est que quand il donnait la main à quelqu'un, c'est bien rare qu'il n'avait pas une 20 piastres dans la main. Là, là. Mon père était comme ça. « Oh, tu trouves ça le fun. » Il dit « c'est le fun. » Il dit « garde ça. Ça l'a rendu heureux. » Ben oui. Ben oui. Ben. On a été élevés comme ça. C'est facile, là. Okay? C'est pas difficile du tout. Mais voyez-vous, Dorcas, c'était comme ça. Puis Pierre, il a fait sortir tout le monde, il est rentré dans la chambre, il a prié, puis elle a ressuscité. C'est des armes. Les armes avec lesquelles, je veux que vous compreniez ceci, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Sont puissantes. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est vivante. Elle agit. L'apôtre Paul, il prêchait à un moment donné, puis il dit, vous avez reçu la parole vraiment comme elle est. Il dit, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Il dit, vous l'avez reçue vraiment comme elle est. Vraiment comme elle est. Puis moi, des fois, tout le temps, quand je prêche la parole de Dieu, puis que je vois les gens obtenir des miracles dans leur vie, je dis, ils l'ont reçue comme elle est vraiment. Ils l'ont reçu comme la parole de Dieu qui agit en eux qui croient. Mais ces armes-là, c'est l'arme de la parole de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, il y a plein d'armes dans lesquelles on peut renverser des forteresses. Même si c'était dit telle chose, par le médecin, il reste juste 5 jours à vivre, on renversait les forteresses. On renversait ça. On renversait la sagesse du médecin. C'était vrai, elle avait passé ses 61 jours avec des tubes parce qu'elle faisait une pancréatite aiguë à 82 ans. Puis on voyait ça, nous autres, il y avait un pot à côté du lit, là. Ça, c'était noir, là. Ça se remplissait, là, tu sais, là. Et puis, elle ne mangeait pas. Et puis, on sait, ma mère, on l'a toujours vue toute sa vie. Puis, faut pas, je l'imite, faut pas. On rentrait, puis mon père disait, « Voulez-vous avoir des chips, les enfants? » Fait que là, quand on rouvrait la petite porte de sa grosse armoire, elle avait un sac de chips. Ma mère, elle prenait pas le temps de l'ouvrir, elle faisait un trou dans le sac. Elle mangeait des chips l'après-midi. Ma mère, de la crème avec des fraises, des bonbons. Ma mère est venue au monde à Estingus. Son père, c'était le maire. Elle a été élevée avec la crème et les fraises. Mon père, il venait de la Beauce, dans la pauvreté. Il a été élevé avec des patates à fricasser. Ça a fait un beau mélange. Oh, gloire à Dieu. Mais voyez-vous, c'est des âmes qu'on amène à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est comme si on regarde dans nos circonstances et on dit, non, je ne me mettrai pas à douter. Vous autres, là, je vais vous emmener à obéir à la parole de Dieu. Vous allez obéir à la parole de Dieu. Fait que ce que le médecin a dit ou ce que la banque elle a dit, non, vous allez obéir à la parole de Dieu. Quelle parole? Oh, j'ai oublié de la parler. Ben oui. Quelle parole? La parole que tu parles. Amen. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Pas selon l'économie du monde, selon sa richesse. Dieu me fait toujours reposer dans les verts pâturages. Je suis son enfant, puis il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Dieu rouvre des portes que je ne pensais jamais qu'elle ouvrir. Il rouvre des portes que l'homme ne peut pas ouvrir, puis il ferme des portes que l'homme ne peut pas fermer. Il y a des fois, le monde dit, j'ai de la misère avec ça. Laisse faire, mets ça dans les mains de Dieu. Laisse faire la circonstance. Amène la circonstance à être obéissante, à captive à la parole de Dieu. Parle la parole, puis Dieu va fermer la porte. Maintenant, tu vas dire, ben, finalement, c'est débarrassé ça dans ma vie. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Je pense qu'on va arrêter ici. Amen. Mais vraiment, on peut commencer par le confesser, ça. On peut dire, Seigneur, aide-moi par ta parole, instruis-moi pour que j'amène toujours toute pensée négative, tout doute à l'obéissance de la parole de Dieu. Fait qu'un moment donné, il va s'élever quelque chose de négatif, puis tout de suite, Dieu, il va te rappeler un verset. « Oh, merci de m'aider à emmener cette circonstance-là captive à l'obéissance de la parole de Dieu. » Merci, Seigneur. Amen. On va se lever debout.